Veuillez écouter Qui êtes-vous, une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, qui êtes-vous, Georges Bataille.
Catherine Gris, voudriez-vous nous dire ce que l'on peut lire sur le visage de Georges Bataille?
Sur le visage de Georges Bataille, deux signes m'apparaissent comme dangereux, mais je m'efforcerai de racheter dans l'esquisse de son portrait ce que ce préambule pourrait avoir de désobligeant. Au fond des orbites creuses, deux yeux brillants, à l'éclat glacé du mercure, sans paupières apparentes, semblent dépouiller l'interlocuteur et la mâchoire vorace semble prête à le déchirer. Cette envie cannibale, intellectualisée, cérébralisée, ne laisse pas d'être inquiétante, et elle donne un ensemble des traits, volontairement figés, un pouvoir hypnotique qui frappe de stupeur ceux qui regardent M. Georges Bataille, et l'on remarque moins la légère asymétrie de son visage carré, comme projeté hors de lui-même, son front haut, ses cheveux bleutés, son nez fouisseur, sa longue bouche qui seule s'anime dans cette face anxieuse comme privée de chaleur affective. La moitié supérieure révèle l'émotion profonde, intense, que son possesseur doit tirer d'un mot, d'une idée, d'une vision. Le bas en traduit le plaisir cruel et la délectation douloureuse. Monsieur Georges Bataille doit exercer sur ceux qui l'écoutent une séduction puissante.
Monsieur Georges Bataille, je vais vous demander, selon notre petite tradition, de bien vouloir répondre aux questions du test que voici. Qu'aimiez-vous faire étant petit?
Mon Dieu, je me rappelle surtout d'avoir été très paresseux, et je ne peux pas dire que j'aimais m'ennuyer. Mais enfin, l'ennui profond dans lequel j'ai vécu indique suffisamment ce que j'aimais faire. C'était n'importe quoi qui puisse me distraire. Je crois que j'étais un peu comme tous les enfants.
Quel rôle remplissiez-vous dans vos jeux d'enfant?
Je crois que j'étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J'ai cessé de l'être complètement depuis. Mais j'étais le plus petit de ma classe. Je me bagarrais tout le temps et j'étais très souvent battu.
Vous rappelez-vous ce que vous auriez voulu être quand vous étiez écolier?
Oh, cela changeait tout le temps. Mais je me rappelle que je lisais beaucoup, beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre.
Estimez-vous avoir réalisé l'essentiel de vos rêves de jeunesse?
Il n'est pas devenu Sioux quand même.
Non, mais il en a eu d'autres, il nous dit.
Ça dépend de quelle jeunesse il s'agit. En général, je ne suis pas mécontent de mon sort.
Pensez-vous être actuellement meilleur et plus pur que vous ne vous trouviez dans votre jeunesse?
Oui, je crois cela. J'étais très embarrassé avec moi-même étant jeune, et cet embarras était en partie moral. Actuellement, il me semble avoir un peu dominé la situation.
Vous avez pris l'habitude de vivre avec vous?
C'est cela. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, en effet, du malaise que je ressentais étant enfant.
Quelle est l'action ou la chose qui vous rend particulièrement heureux?
Diable.
Oui, les hésitations en disent long sur le nombre de choses qui vous rendent heureux, en tout cas.
La première chose que je pourrais dire, c'est que je dois être à peu près comme tout le monde. Et que tout de même, enfin, il est certain que tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux. Ce sont les sensations les plus intenses. Mais enfin, j'ajouterais ceci de personnel. C'est que ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion.
Pouvez-vous facilement refuser audience aux pensées et aux sentiments déprimants, à la mauvaise humeur et aux inévitables contrariétés?
Je les surmonte généralement assez vite, mais tout d'abord elles me font sombrer.
Avez-vous l'habitude chaque soir de faire l'inspection de votre journée entière et de revenir sur vos pensées comme sur vos actes pour les peser?
Ah ça, non. Sauf si, par exemple, j'en suis malade, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Mais en temps normal, je m'endors et c'est tout.
Avez-vous tendance à voir la vie sous un angle favorable ou défavorable?
Favorable, nettement. Encore que tout ce que j'ai écrit semble aller dans le sens contraire.
Quel est, à votre avis, le but le plus important que nous devons nous proposer dans la vie?
Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but.
Si pour une raison donnée vous deviez abandonner votre profession, vers quelle sphère d'activité vous orienteriez-vous?
Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais. Je suis bibliothécaire de profession, j'écris des livres. Je peux évidemment changer les bibliothèques pour une autre occupation.
Vous dirigez aussi une revue.
Je dirige une revue.
Alors, est-ce que si vous n'étiez pas écrivain vous-même, vous aimeriez diriger probablement les autres ou non?
Oh, sûrement pas.
Sûrement pas.
Sûrement pas. J'ai eu des velléités du côté de la politique. Mais ces velléités me sont toujours assez vite apparues presque ridicules.
Est-ce que vous avez, messieurs, une autre question à poser?
J'ai été impressionné parce qu'il a parlé de Sainte-Thérèse et de Saint-Jean de la Croix, alors qu'en effet, je tiens bataille pour un mystique constitutionnel. Mais j'ai été aussi parce qu'il a dit « Je vois la vie d'une façon plutôt favorable, quoique mes écrits semblent plutôt en sens contraire. »
Vous avez noté aussi.
Alors, je me suis demandé comment il expliquait lui-même ça, étant donné qu'il est tout de même très lucide.
Je crois que tout ce que j'ai dit qui allait contre les côtés favorables de la vie tenait à ceci, tenait à ce que j'ai dit tout d'abord, que je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble que l'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable, d'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir.
La destruction du but, c'est la morale même des bouddhistes. N'est-ce pas? Qui dit qu'il ne faut jamais faire un acte pour ses fruits.
Exactement.
Alors, nous sommes dans la controverse au sujet des bouddhistes. Il est probable que... cette destruction du but est en réalité pour faire place à Dieu, au moins chez les bouddhistes. Chez vous, c'est pour faire place à quoi?
Mais je dirais facilement, en jouant sur les mots, c'est pour remplacer Dieu.
Oui. Par lui-même.
Faire place à Dieu dans un autre sens que celui que vous employez, je crois. Pour ma part, je ne vois pas de nécessité de nommer un Dieu immanent, et il m'a toujours semblé qu'à partir du moment où l'on nommait Dieu, on désignait une transcendance. Parce qu'on définit Dieu en le nommant, on se lie aux définitions, du moins, de toutes les théologies qui en ont parlé.
Oui, c'est un mot très usité et qui a naturellement a changé beaucoup de sens. Mais je pense que ce que vous dites n'est peut-être pas tout à fait... Enfin, on pourrait peut-être s'entendre par l'idée qu'on peut appeler Dieu la partie de soi-même qu'on trouve valable par opposition à celle... qui voudrait précisément contracter des habitudes.
Je risquerais alors de tromper mon monde, parce que si j'entendais les choses de cette façon, ce serait plutôt mon côté gribouille et mon côté ridicule que j'appellerais Dieu. Alors c'est peut-être pas très correct.
Est-ce qu'on ne peut pas dire de façon plus primaire que détruire le but, comme vous voulez le faire, c'est faire place à Dieu ou à rien?
Dieu ou rien, comme on veut, en réalité, c'est, ça, c'est la porte ouverte.
C'est ça, mais est-ce que c'est ce rien que vous acceptez?
On ne peut pas dire qu'à partir du moment où l'on supprime toute espèce de but, il puisse y avoir même rien. Rien, c'est déjà trop dire, puisqu'on s'en fout. Il ne peut pas y avoir
ça consiste par conséquent,
un objet de pensée qui s'appelle rien.
Ça consiste par conséquent à accueillir ce qui est en vous dans l'instant.
Ça consiste à supprimer, en somme, ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée.
Oui, mais au profit de quoi?
Au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. Je ne dis pas que c'est la poésie que j'ai voulu désigner tout à l'heure, mais tout de même, c'est une indication. Il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée, ou des attitudes mieux que de la pensée.
Désordre par rapport à quel ordre? Parce que d'un autre côté, il n'y a pas de désordre.
De l'ordre dont je parlais, très simple, c'est l'ordre que l'on est bien obligé d'avoir quand on veut faire une valise pour prendre le chemin de fer.
Oui, alors la poésie est l'ordre inverse de la valise, mais
exactement.
C'est aussi un ordre.
Est-ce que vous avez une façon spécialement poétique de faire votre valise, c'est-à-dire d'entasser les objets à l'intérieur pêle-mêle?
Ah non, pas du tout, j'ai beaucoup d'ordre quand je
fais ça. À ce point de vue-là, est-ce que j'aimerais bien que nous passions sur un terrain un peu plus concret et que vous nous donniez quelques renseignements au sujet de votre méticulosité. Cette destruction du but
destinée à libérer en vous des forces désordonnées et poétiques, est-ce qu'elle ne s'accompagne pas dans la vie courante, au contraire, d'une méticulosité, d'une scrupulosité poussée à l'extrême, d'un certain doute qui pourrait nous montrer là une contradiction digne d'intérêt?
C'est bien possible, encore que j'ai généralement l'impression d'être un homme assez normal, de ne pas être plus scrupuleux qu'un autre, ni plus ordonné.
Tout de même, il faut mettre de l'ordre dans les lits.
Ah oui, oui, je fais cela même volontiers. Ça me donne une satisfaction assez bizarre. J'exige facilement du personnel que les lits soient très bien alignés sur les rayons.
J'aimerais passer à un sujet tout à fait différent, mais qui tout de même rejoint un peu celui que nous venons d'aborder. C'est à propos de ce que vous avez répondu concernant le bonheur. Le bonheur pour vous, le bonheur le plus grand, paraît être en rapport avec la plus grande intensité des sensations perçues.
Exactement.
Alors, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous entendez par là et à quoi ça vous fait penser.
Eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
Mais enfin, vous avez tout de même prononcé le mot de sensation. Une sensation, ça correspond à quelque chose qui est perçu d'une manière biologique. Qu'il y ait en dernier sort, naturellement, une perception endopsychique, d'accord, mais il y a tout de même, à l'extrémité de cette chaîne, il y a tout de même, primitivement, quelque chose de biologique.
Nous voici en plein concret.
Parfaitement.
Je suis souvent porté à croire que ça n'a pas d'importance, mais je crois que là, je simplifie. Je simplifie d'une façon dont j'ai peut-être le droit, mais dans des conditions lointaines. En fait, il est certain que je préfère entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille. L'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille, comme ça, exprès pour m'embêter. Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter.
Est-ce que je peux tout simplement vous poser la question, pourquoi écrivez-vous?
Au fond, c'est ce que je sais le mieux, et c'est ce que je puis le plus difficilement dire. Au fond, je pourrais répondre simplement ceci, c'est parce que c'est ce qui ressemble le plus à l'absence de but. Écrire, malgré tout, n'est-ce pas, bien que lorsque j'aligne des phrases, n'est-ce pas, j'ai un but. J'ai toujours un plan, je sais ce que je vais dire, ou à peu près. Mais tout de même, n'est-ce pas, je n'écris jamais que pour supprimer le but. Et au fond, c'est toujours un plaidoyer. Un plaidoyer moral pour la suppression du but.
Mais est-ce que c'est ce que Kant appelle la finalité sans fin dans l'œuvre d'art? C'est-à-dire la suppression expresse du but déterminé.
Je crois en
effet. Le libre jeu des facultés sans autre but qu'elle-même, précisément.
C'est cela. C'est l'aspect kantien, vous avez raison de le souligner.
Et lorsque vous disiez que ce qui vous plaît le plus, c'est les sensations les plus intenses, il faudrait peut-être que vous fassiez un choix entre ces sensations les plus intenses, exactement comme vous l'avez fait entre la sonate et le coup de canon.
C'est ce que j'allais dire.
Alors, entre la sonate et le coup de canon, que vous raccordiez peut-être cela à ce que vous disiez Saint-Thérèse de Saint-Jean, et vous, est-ce que vous ne finiriez pas par découvrir que dans ces sensations les plus intenses, ce n'est peut-être ni le côté tellement sensuel, ni le côté tellement intense qui vous plaît le plus? Est-ce que vous ne vous trompez pas sur vous-même?
À vrai dire, en ce qui concerne Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, que j'ai cité comme exemple, bien qu'il s'agisse d'expériences assez lointaines de celles que j'ai pu avoir, je pourrais dire ceci, c'est que l'intensité est plutôt une aide dans la voie qui mène à une sorte de ravissement, dans la mesure précisément où l'intensité détruit. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'il faut toujours, comme je l'ai d'ailleurs dit, une intensité supportable. Et que d'autre part, le travail de l'esprit, et pas seulement le jeu des sensations, ont une importance considérable à ce moment-là. C'est le travail de l'esprit qui a une importance considérable à ce moment-là.
Donc il y a quand même quelque chose de spirituel. Est-ce que vous ne cherchez pas, autrement dit, une sorte d'absolu concrètement vécu, si vous voulez?
C'est cela.
Est-ce que ce n'est pas un but, ça?
Naturellement.
Ce n'est pas un but dans le sens où on dit qu'il y a des buts dans ce monde, évidemment.
Si vous lisez un jour tel de mes écrits, vous verrez qu'une grande partie de ma réflexion est consacrée à la critique que vous venez de soulever. C'est précisément, n'est-ce pas, que si je me mets dans l'état d'esprit de quelqu'un qui recherche un ravissement comme le faisait Saint Jean de la Croix, aussitôt je dois me dire, eh bien, mais ça ne va pas, je suis en train de me proposer un but, qu'est-ce que je fais? Mais je suis décidément le pire des gribouilles.
Saint Jean de la Croix ne cherchait pas à ressembler à Saint Jean de la Croix.
Évidemment, mais il suivait une voie que d'autres saints avaient innovée.
Il tâchait de trouver sa voie propre.
Alors là, vous abondez dans mon sens, oui. Parce que je crois que toujours dans ces cas-là, il y a dépassement.
Moi aussi.
On peut se proposer des buts, et on peut même se proposer de dépasser ces buts, mais c'est un fait qu'en restant de ça, en se proposant de les dépasser, mais qu'en fait, on garde la faculté de sauter. Un élan considérable peut être réservé à travers ces péripéties, ces obstacles et ces jeux de gribouilles.
Mais c'est cet élan, en somme, que vous cherchez quand vous parlez de l'intensité de la sensation.
Et bien sûr, je le cherche.
Est-ce que vous acceptez, en ce qui vous concerne, le terme dont vous a qualifié tout à l'heure Emmanuel Berne de mystique constitutionnel?
Oh bien, je fais des réserves, parce que je suis bien obligé de dire que ma philosophie est le contraire d'une mystique. Je crois que vous aviez raison, tout en me fâchant.
Votre vie serait une sorte d'élimination, d'assaise d'élimination, qui arriverait à faire tomber de vous, tout ce qui est but, tout ce qui est monde, pour arriver à une approche, à permettre à une sorte, disons, de présence, et non plus d'absence, enfin de présence pure de se manifester.
Je ne crois pas qu'il voudra.
Ah si, présence pure, absence, c'est la même chose. Parce que quand vous dites présence, vous impliquez un objet. Si vous supprimez l'objet, c'est l'absence de l'objet, et cette présence est donc, se définit donc comme une absence.
Oui, c'est ça, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui serait positif, concret, et qui ne serait ni de ce monde, ni des buts de ce monde, qui serait vous, qui serait de vous.
C'est trop dire, n'est-ce pas? Je n'aspire qu'à une chose, dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Et il est naturel que ce soit l'objet d'une critique assez sérieuse, parce que somme toute, ni maintenant, ni autrefois, je n'ai pris de revolver, ni de poison. Je crois qu'il est plus amusant. Il est peut-être plus lâche aussi. Il est plus amusant d'essayer de se supprimer avec une gymnastique de l'esprit ou des sensations. Je crois aussi que c'est plus intéressant humainement. Parce que l'homme est ainsi. L'homme, au fond, est une histoire assez malvenue, qui a toutes sortes d'inconvénients. Il est bien obligé, à un certain moment, d'apercevoir qu'il y a une part d'échec considérable et qu'il faudrait liquider. Mais s'il se supprime, alors il supprime tout, c'est embêtant. Il y a toujours, je crois, chez l'homme, cette nécessité de se supprimer en se conservant.
Mais on peut bien appeler, alors, je trouve qu'on revient tout de même beaucoup à Dieu, parce que cette partie qui supprime l'homme et ce qui reste de l'homme, une fois l'homme supprimé, je vois même pas comment on peut l'appeler autrement que par ce mot qui, évidemment, peut susciter beaucoup de malentendus.
Oui, vous avez raison, mais vous me désolez en même temps, parce que voulez-vous, les théologiens, c'est-à-dire les gens qui ont institué, pour ainsi dire, l'existence de Dieu dans le monde, me paraissent, si vous voulez, assez loin de moi. Ils me paraissent trop sérieux.
Vous serez plus proche du personnage des possédés.
Oh oui, oui.
Plus proche de Kirillov et du suicide
oui,
de Kirillov.
Oui, je suis assez proche de Kirillov.
Je pourrais vous demander, à quel âge est venu pour vous, pour la première fois, ce sentiment qu'il fallait en effet se supprimer? À quel moment la rupture s'est-elle faite entre cette enfance partagée comme toutes les enfances entre la bagarre et l'ennui et la conscience que vous avez prise que l'homme ne devait pas avoir de but, mais tout de même devait assez profondément penser sur lui pour tendre vers cette image que vous en proposiez?
Eh bien, je me rappelle assez exactement, ça devait être vers 1919 et 1920, que les choses, en tout cas, ont pris cet aspect assez conscient.
Vous aviez quel âge?
Eh bien, je devais avoir 22 ou 23 ans.
Ah, c'est seulement à 22, 23 ans que cette idée de tâcher de détruire en vous, enfin, disons, les habitudes, on pourrait dire aussi la vie, vous êtes nul.
Eh bien non, à la réflexion, ce n'est pas tout à fait vrai. Cela a pris une tournure plus sérieuse à ce moment-là parce que je n'avais plus la foi. Parce que j'avais tout à fait rompu avec cette idée de foi, tandis qu'auparavant, c'était limité par une croyance catholique. Mais tout de même, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette croyance catholique, je me rappelle que je m'étais arrangé pour imaginer que le paradis, c'était la suppression de soi.
Et vous étiez sur la voie de la sainteté et vous avez renoncé aux alentours de la 22e année.
Je ne crois pas que dans la mesure où j'ai eu cette foi catholique, j'étais le moins du monde sur la voie de la sainteté. J'étais peut-être aussi bien sur la voie du péché. J'étais mêlé, si vous voulez. Certainement pas avec une prédominance de la sainteté.
Mais de la bagarre.
C'est ça.
Toute cette discussion relative à ce but mystérieux qui est en vous, qu'il faut détruire, ne me satisfait pas pleinement.
Moi non plus.
Je voudrais vous demander si quand vous étiez petit, et même tout petit, quand vous commenciez à essayer de lutter contre l'ennui, si vous n'aviez pas déjà si vous n'étiez pas en présence d'un but qu'on vous proposait ou qu'on voulait vous imposer, et que vous aviez déjà essayé de détruire en vous réfugiant dans ce gribouillage, si j'emploie votre expression, dans un gribouillage infantile destiné en apparence uniquement à combattre l'ennui, à lutter contre l'ennui, mais qui correspondait peut-être déjà à cette négation d'un but.
L'ennui est pourtant déjà une absence de but.
Tous les enfants en bas âge ne s'ennuient pas à ce point-là. On peut donc établir une liaison entre la question de ce but et la question de lutte contre l'ennui et vous demander si vos éducateurs n'ont pas exercé sur vous une pression particulière qui vous a amené déjà à cette époque à entamer les premières luttes contre l'ennui et en vue de détruire tout but en vous.
Ce que vous dites m'intéresse beaucoup et il y a là pour moi une voie de réflexion que je n'ai pas encore suivie. Cependant, au premier abord, je suis frappé par ceci, c'est que mon éducation n'était pas une éducation de contrainte. Au contraire, c'était plutôt une éducation de délaissement. Enfin, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Et dans cet ennui, je souffrais d'être seul. Je me rappelle très bien des heures passées dans la pénombre, qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie.
Vous n'avez pas de frère et sœur.
J'avais un frère qui avait 7 ans de plus que moi. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie. La maison était très triste.
Vous avez toujours connu votre père aveugle?
Oui, toujours.
Est-ce que vous vous rappelez les premières impressions de quand vous étiez tout enfant et que vous avez pu ressentir en découvrant que votre père ne voyait pas?
Je crois que ça a été si sérieux, si grave pour moi, que je ne peux pas me rappeler les premières impressions. Elles sont si multiples et si ancrées en moi, elles ont pris une valeur si profonde que...
Est-ce que vous avez établi un rapport qui s'impose à moi maintenant, mais que je le sais car je ne savais pas cela, entre le fait que votre père était aveugle et que le premier ouvrage que j'ai connu de vous s'appelait L'Histoire de l'œil?
Cet ouvrage est un ouvrage anonyme.
Oui, mais enfin, je crois me rappeler que c'est par vous que je l'ai connu.
C'est cela. Je ne crois pas que ce soit...
C'est troublant.
Faut-il mettre cela en rapport, peut-être n'est-ce qu'une association verbale, avec les heures que vous disiez passer dans la pénombre. Vous avez employé ce mot deux fois.
Et oui, en effet, il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond.
Et est-ce que, n'est-il pas vrai de dire alors que vous avez renoncé très vite à combattre l'ennui?
Ne voyais qu'un moyen de combattre l'ennui qui était de jouer.
Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre formation plus récente une sorte d'adhésion, de soif, d'acceptation à cette espèce d'ennui, à cette espèce de rien persistant sur vous, à cette espèce de voile de néant?
En somme, ce que vous dites a un sens très net pour moi.
C'est tellement évident, je trouve la remarque de Clavel extrêmement subtile. Il est évident que l'état où était votre père nous paraît très important. Parce que
Vous deviez, c'est une hypothèse que je fais, vous deviez, étant petit enfant, avoir l'impression que votre père ne pouvait pas se proposer, lui, un but défini dans la vie. Car un aveugle, c'est quelqu'un qui est séparé du monde extérieur, qui est obligé de marcher à tâtons. Et il est possible que, inconsciemment, vous ayez déjà eu en vous un certain sentiment d'inanité, de diriger et de centraliser ses efforts vers un but défini, parce que le père, lui, n'était pas capable de le faire.
Ceci est peut-être d'autant plus vrai que vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous parliez de mon père comme marchant à tâtons. Mon père ne marchait pas à tâtons pour la bonne raison qu'il était aussi paralytique. Et évidemment, ceci charge les choses dans le sens que vous dites, encore que lui faisait beaucoup de projets. Il croyait toujours guérir. Et...
Oui, mais vous enfin, des projets.
C'est assez sensé.
C'était peut-être cela qui vous a résolu à tuer et l'espoir et le but. Enfin, qui vous a résolu, qui vous a infléchi, incliné.
Pour me rendre aussi paralytique et aussi aveugle que mon père.
Non, parce que vous avez vu par même la formidable stérilité de l'espoir.
Peut-être pour vous rendre aussi existant que votre père, que justement la vraie vie n'est ni dans l'espoir, ni dans le but, ni dans les yeux, ni dans les mouvements, mais qu'elle est dans un ailleurs que vous cherchez peut-être en rompant les habitudes et par le désordre des sensations.
Peut-être parce qu'on retrouve quelque chose d'irréductible sur quoi ni l'immobilité ni la nuit n'ont de prise.
Et c'est ça le rien.
Et d'irréversible.
Rien, je proteste toujours. Parce
bien
que...
sûr, moi aussi.
Il faudrait que je connaisse ce que c'est pour dire que ce n'est rien.
Il me semble que maintenant il n'y a plus à conclure, les conclusions ayant comme jailli d'elles-mêmes à la fin de notre entretien, les conclusions, c'est-à-dire les causes. Jean Guyot, que dit le test?
Il y aurait évidemment bien des choses à dire à propos de la réponse à la 10e question du test. Georges Bataille veut détruire et supprimer les buts qu'il pourrait avoir dans la vie. Cela ne signifie-t-il pas que durant son enfance auprès de son père infirme, le but s'est longtemps présenté à Georges Bataille sous l'aspect d'un sentiment d'impuissance? Toujours est-il que Georges Bataille est resté très émotif, craintif et sensible, au point d'être assez facilement peiné jusqu'aux larmes. Il est superstitieux, et ceci explique peut-être en partie sa règle de vie qui consiste à ne pas se fixer de but pour conjurer les dieux. Il préfère demeurer chez lui plutôt que de se trouver en société, parce qu'il doit avoir le sentiment de n'être pas comme les autres, de n'être pas toujours compris. Il est également la proie de sentiments dépressifs, de l'auto-analyse et de la rêverie, c'est-à-dire de la distraction. Ajoutons que Georges Bataille est un mystique, mais un mystique dont la prière serait « Donnez-moi de l'angoisse encore » tant il éprouve la nécessité d'être inquiet.
N'oublions pas que Georges Bataille est écrivain. Et ce qu'il cherche dans le désordre de la pensée, c'est la matière poétique. Toute organisation de la pensée lui donne l'impression de le détourner du sentiment poétique. Et c'est pourquoi il se complaît dans ce désordre, dans l'angoisse, dans les bagarres avec lui-même, dans tout ce qui fait mal et provoque d'intenses sensations. Tout vaut mieux que l'ennui et le délaissement. On pourrait presque se dire qu'il cherche sans cesse à retrouver la pénombre de ses premières années, à ne pas voir le monde extérieur, à le supprimer comme il était supprimé par son père, à ne regarder que ce qu'on voit en soi, dans cette lente et aveugle méditation qui donne l'illusion d'un dépassement.
Vous venez d'entendre « Qui êtes-vous, Georges Bataille ?» avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le docteur Martin et Jean-Pierre Morfait. Montage, Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Assistants Maurice Béard et Gaston Morfait. La semaine prochaine, « Qui êtes-vous, Claude-André Puget ?» C'est une émission d'André Gillois.